Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Comment dire ?
Comment dire ? Comment dire ?
Une émission proposée par le département d'études théâtrales de l'université Paul-Valéry Montpellier 3.
Produite par FM+.
Réalisée avec la collaboration de la revue Spintica.
En partenariat avec La Baignoire.
Lieu dédié aux écritures contemporaines.
Et les éditions Espace 34.
Faut que tu t'éclaircisses la voix, que tu essayes de le dire. Et voilà.
Je vais dîner ce soir chez Serge. Il y a du progrès.
Comment dire.
Cacha Lyon est autrice, metteuse en scène et performeuse. Elle est née en 1995.
Oh waouh,
c'est moi qui suis fatiguée.
J'ai grave eu un répit.
Elle est née en 1985. Elle est d'origine martiniquaise et a grandi en Picardie. Elle rejoint Paris pour des études d'art du spectacle, comme vous, donc.
Pour voir Sylvie.
Et voilà. Et le conservatoire du 20e arrondissement aussi. De 2005 à 2017, elle travaille au sein de la compagnie Entrée de Jeu, que beaucoup d'entre nous connaissent, hein, qui est dirigée par Bernard Grosjean. Et puis, elle fonde en 2006 sa propre structure, la compagnie Dans le Ventre, et crée de nombreux spectacles. Voilà, on peut citer L'estomac dans la peau, Monstre d'amour, Je vais te donner une bonne raison de crier, Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, Une chatte retombe toujours sur ses pattes. Oui, parce que les titres sont tellement...
Une patte retombe toujours
sur ses... Ah ouais, voilà. Mais c'est à chaque fois... Une patte retombe toujours sur ses chattes. Et, voilà. Et moi, je fais toujours... J'inverse sur le bord. Donc, moi, j'avais vu, en tout cas, la chapelle du Verdun incarnée à Avignon. En 2019, elle se produit dans Vive le sujet pour le Festival In d'Avignon. Et elle a aussi été programmée donc, pour la grande forme Carte Noire nommée Désir en juillet dernier. Et donc, elle est actuellement à Montpellier, au Théâtre Jean Villard, en co-accueil avec le CDN des 13 ans pour Plutôt vomir que faillir. Rebecca Jaillon est représentée donc par L'Arche, où elle a publié l'ouvrage Boudin Begin Best of Banane en 2023, après avoir aussi contribué aux ouvrages Décolonisons les arts et Lettres aux jeunes poétesses. Bon, après, elle fait plein de choses. On peut la voir aussi à la télévision. Voilà, des fois, on regarde une série et hop, on voit Rebecca.
En train de plaquer André Fleuron contre un mur.
Voilà, exactement. Et donc, il n'est pas possible de donner la liste de tout ce qu'elle fait. On ne sait même pas comment elle fait pour être encore debout et pour proposer des spectacles aussi puissants que Plutôt vomir et puis Carte Noire où tu performes aussi. Donc, voilà. Merci encore d'être parmi nous. Alors, une première question, puis après, je vais laisser la salle et puis les étudiants et les étudiantes te poser leurs questions. On travaille beaucoup dans ce cycle sur la question des imaginaires, en fait. Et c'est vrai que ce qui est formidable avec le travail que tu proposes, c'est d'abord qu'on ne s'ennuie pas, parce qu'en fait, il faut quand même dire que souvent on s'ennuie quand on va au théâtre en ce moment. Dans le théâtre de Rebecca Chaillon, on ne s'ennuie pas. Et on ne s'ennuie pas parce que tu travailles vraiment à une diversité des écritures, en fait. Oui, c'est de la performance, mais ce n'est pas que de la performance. Tout d'un coup, donc, on va passer d'un registre qui va être plutôt strictement visuel, sans parole, à vraiment un registre plutôt poétique, avec des textes que tu écris. Puis tout d'un coup, on bascule sur le mode du témoignage, du récit intime, qui est aussi pris en charge par les performeurs et les performeuses. Comment est-ce que tu travailles à cette multiplicité de signes et est-ce que c'est pour toi c'est ce qui constitue aussi la dimension décoloniale de ton geste artistique?
Merci d'être là et de m'inviter, c'est un peu énorme, je m'attendais pas à ouvrir les yeux que vous soyez aussi nombreux. Alors pour mon travail, je pense que le mot décolonial je l'ai pas pensé en travaillant directement. Je me dis que vu que c'est moi qui fais et que je lis beaucoup ça et que je cherche comment déconstruire des trucs, ça l'est, mais je me dis jamais, dans une perspective décoloniale, comment je vais faire mon spectacle. C'est plutôt, comment je vais faire mon spectacle, point. Pour la diversité des formes, des disciplines au sein même du spectacle, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui travaille, qui discute et qui échange beaucoup dans la contradiction. Donc je pose des choses et puis j'ai besoin de poser immédiatement le contraire, l'opposé, et de faire ce dialoguer les formes à l'intérieur même du spectacle. Enfin, je fais dialoguer moi-même dans le spectacle. Donc, j'ai à la fois fort besoin de quelque chose de cru, d'intime, qui me semble très réel, palpable, et d'aller travailler à l'empathie avec les personnes du public. Voilà. Et à la fois de me dire qu'on a besoin d'un peu de magie et d'un peu de poésie, qu'il y a des choses que je ne sais pas expliquer, que je ne peux pas représenter, et donc j'ai là fort besoin que les images, et quand je parle d'images au sens large, hein, les images créées par les actions au plateau, ou créées par les corps en action, les corps qui disent, les corps qui... Voilà, j'ai besoin de cette partie un peu mystérieuse-là, et d'obliger les spectateuristes à faire une part du travail, qui est à peu près la même que la mienne, qui est de se poser des questions en regardant, et de fabriquer des hypothèses en regardant. Voilà, j'aime bien poser mes questions et mes doutes au sein des spectacles. Voilà. Et
dans le rapport au réel, cette question aussi de l'intime et du récit de soi, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour toi? Parce que c'est pas juste, par exemple là dans Plutôt vomir que faillir, mais c'est vrai aussi pour Carte noire de mes désirs, c'est pas juste toi, et c'est pas juste le récit de toi, c'est aussi les comédiens, les performeuses et les performeurs qui parlent d'eux, en fait, qui se livrent.
C'est venu comme une solution, enfin en tout cas comme une des réponses possibles. En gros, dans les premiers travaux que j'ai menés un peu à cet endroit de croisement entre spectacle de théâtre et performance, souvent j'ai fait seul et puis j'ai fait à deux avec Elisa Monteil qui est au son, par exemple dans Plutôt vomir parce qu'elle est trop vieille comme moi, ou dans Carte noire elle est au son parce qu'elle est trop blanche comme elle-même. Et du coup, en fait, tant qu'on était toutes les deux et qu'on décidait toutes les deux, qu'on était toutes les deux vraiment performeuses et donc metteuse en scène de nous-mêmes, on pouvait se permettre toutes les images, toutes les choses qu'on convoquait, tous les textes qu'on portait étaient forcément portés par nous, d'une certaine manière décidés par nous. À partir du moment où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, j'invite d'autres personnes dans un projet qui naît de moi, qui se nourrit de nos échanges et tout ça, mais qui reste quand même un truc ambigu entre performance, où tu es censé décider les choses toi-même, et la mise en scène, où il y a quelqu'un qui dirige et qui a un regard et qui, voilà, impulse, dirige, voilà. Et donc, vite, c'est devenu compliqué, parce que je me disais, mais je peux, c'est de la gruge, du coup, parce que je parle de performance, et du coup, toutes ces personnes-là, elles décident pas forcément de tout. Et elles ne peuvent pas changer le rapport au temps, changer le rapport à l'espace. C'est quand même assez cadré par le spectacle. Donc, et notamment la parole. Et la question de la parole, moi, je ne me sentais pas du tout de faire des entretiens d'essayer de réécrire à leur place leur vie. Donc, il m'est venu à l'idée que peut-être une des performances possibles, ce serait de performer l'écriture en direct. C'est-à-dire de pas mal échanger, peut-être parfois de poser des protocoles. Dans Carte noire, on a des protocoles d'improvisation, par exemple, très protocolés. Enfin, c'est pas, y a pas de grandes échappées possibles. Je reste en contrôle de l'écriture, mais à l'intérieur de ça, je demande aux interprètes de ressolliciter, réactiver, réactualiser et d'écrire en direct, quoi. Donc, dans Plutôt vomir, c'est là où ça s'exprime le plus parce que je disparais de la scène et que, pour le coup... je suis réapparue dans les textes, tous les textes un peu du livre et tout ça, ce sont des textes où c'est moi, ma parole vraiment fort. Et par contre, après, il fallait que je trouve un système, comme je voulais pas écrire pour eux, trouver un système pour qu'ils puissent s'écrire au plateau. Donc c'est là que c'est devenu, une si grande part, quoi. C'est avec ma disparition du plateau. Et, ouais, voilà. Après, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que pendant un temps, on parlait de témoignage et j'étais là, non, ça me plaît pas du tout. Et donc, j'ai demandé que ce soit une performance d'écriture en direct. Je sais pas si ça change grand chose parce que ça donne quand même le même effet, mais j'insiste pour que. Enfin, dès que ça commence à trop s'écrire et à trop se répéter, même quand bien même la salle est en feu, je viens, je dis, ouais, ok, mais bon, ça, j'ai déjà entendu. Voilà, et bon, voilà.
Charlotte.
Non, oui. Allez-y, lancez-vous.
Alors, vous avez déjà un peu répondu à ma question, mais dans Décolonisons les arts, il y a Eva Dumbia qui parle du rapport Sensal, en quoi faut le décoloniser aussi, le remettre en question. Et je me demandais si vous aviez réfléchi à ça dans vos œuvres et par quel procédé est-ce que vous le mettez en place ?
Alors, je l'ai plus réfléchi du coup sur la question de décolonisation là, par rapport à Carte Noire. Je me suis encore une fois pas posé la question comme ça, mais le résultat peut répondre quand même. Je l'ai beaucoup expliqué, donc désolé si ça se répète beaucoup pour vous. Mais moi-même, j'ai découvert le militantisme antiraciste peu de temps avant de créer Carte Noire, par exemple, et la question du point de vue et du point de vue situé et des outils politiques dont on dispose pour se décoloniser soi et décoloniser peut-être nos travaux. J'ai découvert ça un peu en suivant Amandine Gay, la réalisatrice Amandine Gay avec qui j'avais fait Ouvrir la voie. J'ai vu ça dans les séminaires antiracistes qu'on appelle Camp d'été des coloniaux, qui étaient en non-mixité choisie pendant 2 à 5 jours avec que des intervenants non blancs ou en tout cas victimes de racisme systémique. Donc, et c'est des dispositifs que je me suis dit, c'est comme n'importe quel créateur, on prend ce qu'on voit, on prend ce qu'on vit. Et donc là, moi, je venais de vivre ces expériences très fortes, donc c'était génial de pouvoir me dire, je vais déplacer cette organisation au sein d'un spectacle pour titiller la manière dont on regarde les choses. Et là, pour le coup, je sentais bien que on faisait spectacle quand on a fait les camps d'été. D'un seul coup, il y avait énormément de presse qui donnait son avis sur ce que c'était. Il y avait les politiques qui s'en mêlaient, qui tentaient de censurer. Il y avait les antifas et les fachos qui se prenaient la tête et qui manifestaient, qui voulaient nous empêcher. D'un seul coup, on était au milieu de quelque chose et tout le monde avait un avis, tout le monde avait un point de vue sur ce qu'on faisait. Donc, c'était déjà spectacle. Donc, le fait de proposer ça dans Carte Noire, c'était un déplacement de proposer un dispositif en bifrontalité avec comme ça un espace non mixte le temps du spectacle. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est l'endroit où je trouve que on le met le plus en jeu, quoi, cette question de rapport scène-salle explosé. Enfin, il est explosé pour mieux se retrouver à la fin, hein. Enfin, j'espère, mais ouais. Pardon, en fait, j'ai l'impression d'être flou au possible. N'hésitez pas à me demander des précisions.
Y'a pas que le poids de ta croix, les variations de ta voix, ta face et ton toit, et puis le sang de ta souche. T'es nu, rien ne t'empêche de gueuler le venin que tu prêches. Mais va pas te persuader que ceux que t'auras insulté viendront te consulter et même te faire de la lèche. Moi je viens du camp de la Dèche, le 93, si tu me cherches, tu peux dans tes débats cramer des djés là-bas. Personne ne priera l'enfant divin de ta crèche. Qu'est-ce tu veux qu'on comprenne? Chaque fois que tu chiales à l'antenne, que tu te sens plus chez toi, que le coq est entaché, qu'il peut même plus chanter, mais on s'en fout de ta gêne. Élite, 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 c'est toi qui décides et tisse la toile. Répète à celui qui crève la dalle, sans toi il n'est rien jusqu'à ce qu'il l'avale. Pour toi la richesse c'est cruel, car souvent tu te plains qu'au sommet on y gèle. Tu protèges tes biens avec des sentinelles, et les forces de l'ordre te seront toujours fidèles. Si jamais tu mens ou tu voles, évidemment à la fin c'est toi qu'on console. Et c'est toi qui me tutoie alors que je te connais pas. Et puis c'est toi qu'envoie tes gosses dans de grandes écoles. C'est tout en toi qu'a la parole, et c'est toi que j'ai envie d'arracher par le col, qui ne verra jamais les murs d'une cellule. Et c'est toi qu'on sauve quand la maison brûle.
Avec ses parents, sa mère. Oui. Et ma question, c'est tout simplement pourquoi, d'où ça vous vient, pourquoi ce, enfin c'est, comment dire. Moi, je trouve ça trop cool de vraiment partir de choses qui s'ancrent dans le réel très profondément comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de truc qui s'ancre plus dans le réel qu'une conversation avec sa daronne. C'est quand même sa daronne, quoi. Et ça m'intéresse beaucoup le pourquoi du comment, ce geste, choix, façon de faire, je sais pas.
Il y a deux questions, non, enfin, c'est pas qu'il y a deux questions, mais il y a plusieurs réponses. Je crois, dans le premier procédé que tu parles de, en effet, dans Carte Noire, je me suis retrouvée à avoir écrit une partie des textes bien avant, en travaillant sur un principe de piratage, de hacking de texte, un peu à la Cathy Hacker. C'est les copines les copaines du collectif RERQ avec qui j'écris beaucoup, qui m'ont un peu transmis ce procédé-là, de se dire tiens, il est possible de récupérer les grands écrits dominants, enfin les gros écrits de personnes dominantes, donc là en l'occurrence Lewis Carroll. Là, je pirate même son nom, je m'en fous. Avec Alice au Pays des Merveilles, ou même Walt Disney, parce qu'en fait j'ai vu que le Walt Disney, j'ai pas lu le livre. Et de me dire, tiens, je vais m'appuyer sur. Comme je. jusqu'à présent, mon écriture, elle est très basée sur l'anecdote, sur l'intime, et donc un peu parfois décousue, je ne sais pas. Je transforme tout en stand-up, vous allez voir aussi. Voilà, donc comment je fais pour, dans Carte Noire, je sentais que je pouvais pas m'arrêter sur une écriture comme ça. Je sentais que je pouvais pas être dans ce rapport un peu à moi, parce que je voulais parler d'un nous, justement, de parler en, pas au nom d'un groupe social, mais je pouvais pas, mon expérience de femme noire, elle est pas, elle me semblait pas assez forte pour parler de ce groupe, de notre groupe social. Donc, j'ai dû m'appuyer sur quelque chose d'un peu plus écrit, quoi, parce que peut-être cet homme-là, avec toute l'histoire de comment les hommes ont eu accès à l'écriture ou à un auditoire, il était peut-être plus chaud, quoi. Donc, du coup, je me suis appuyée sur son, sur sa base. Et quand j'ai rencontré les interprètes, quand on s'est choisi mutuellement, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que peut-être on pouvait faire un point de rencontre. Donc j'ai quand même fait ces fameux entretiens, mais pas dans l'idée, tiens, je prends ta vie, je la réécris, mais plutôt dans l'idée, qu'est-ce que je perçois chez toi qui se rencontre avec moi. Et donc d'essayer d'écrire à cet endroit-là où il fallait que le texte, je puisse d'une certaine manière le porter, que quelqu'un d'autre puisse le porter, mais que quand même ça fasse friction avec l'interprète. Donc. Tu vois, c'est la liste que j'ai lue au Madré. J'essaie de relever ma tête pour pouvoir vous parler en vous regardant. Voilà, la liste, parfois je peux la changer, elle va changer si c'est une autre interprète, la fin de la liste, mais ça reste une fin de liste. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait, pour le moment, on voit bien dans le texte un point de rencontre, tout plein de trucs qui concernent plein de femmes noires, et puis d'un seul coup, hop, on va préciser sur Estelle parce que. C'est elle qui porte le texte à ce moment-là. Et dans le procédé de faire appel à des archives personnelles, donc dans Plutôt Vomir, il y a au moins deux interprètes qui font appel à des archives concrètes. Moi, le travail dans Plutôt Vomir, il était de, en effet, je vais disparaître du plateau parce que je sens que si mon spectacle doit s'adresser à des collégiens, des collégiennes, à 38 ans, je commence à m'en éloigner dans le rapport que je voudrais créer avec eux, hein, pas qu'on peut pas jouer à n'importe quel âge, mais je me disais, tiens, j'ai envie qu'ils regardent le plateau et qu'ils trouvent que c'est pas trop loin. Et même si je me sens hyper jeune à l'intérieur, je vois bien que je suis toujours Renault 4310, par exemple, et en ça, déjà, j'ai raté ma vie, quoi. Enfin, j'ai raté le coche d'être connecté. Voilà, c'est vraiment le mot. Donc, j'avais besoin que le public que j'invitais se sentent très concernés, très fort. Donc du coup, je disparais du plateau. Et aussi, je me dis, tiens, je viens quand même de mouvements d'éduque pop et de choses très... en rapport toujours avec l'éducation. Donc il était temps que la visibilité, mon temps, il était temps que je transmette mes outils qui sont pas bien grand-chose, qui sont des outils construits comme ça au fur et à mesure, des jeux, des petites choses, des ateliers, des trucs comme ça, que je les transmette officiellement à des interprètes d'une autre génération qui ont des parcours divers, et que je leur donne ça, et qu'ils puissent s'en saisir, et donc ils sont saisis. Et voilà, et moi je demande des preuves. Quand tu me parles de réalité... j'ai besoin, enfin, quand tu me dis oui, c'est ma vraie vie, en vrai, on est au théâtre, donc en fait, tout peut être faux. Donc, ils ont été épuisés dans tout ce qui. dans des choses. Qui pouvaient créer de l'empathie. Où d'un seul coup, tu te dis oh, le vertige, j'entends sa mère, j'entends ma mère, je vois les messages, je reconnais des trucs. Enfin, il fallait que ce soit une connexion directe. Donc, c'est pas le cas pour tous les interprètes. Enfin, ça se passe pas de la même manière pour tous les interprètes, mais c'est vrai que c'est ça qui rend, qui donne ce, enfin pour moi, qui donne ce vertige et ce truc de se dire waouh, je ressens avec lui en même temps les choses, quand même il ne ressent peut-être plus autant de choses, mais des preuves. Moi quand je suis au plateau, je le fabrique avec la nourriture, ce rapport d'empathie, parce que je me dis tout le monde mange, donc quand je mange une peau de banane comme au Madré, tout le monde se dit on le sent dans la gorge, on se dit ça c'est pas ouf. Bon moi je le travaille à cet endroit-là, et puis là c'est par les archives, c'est par les petits micro détails qui font que on te croit, quoi.
Et est-ce que tu peux revenir justement sur ce rapport à la nourriture, parce que l'intervention juste avant s'intitulait Retrouver la saveur de soi, Et donc voilà, on a aussi un peu évoqué cette question de la saveur, du goût, de la manière dont la scène pouvait être un espace de digestion, même si Selwa Luz Bulbina était sur après d'autres registres, d'autres corpus en fait, mais ce terme de digestion, c'est aussi le titre que tu donnes au texte que tu as écrit pour Décolonisons les arts. Donc voilà, là on voit que tu as de très beaux bijoux.
Oui, j'ai mis ma bague fourchette, ouais. Ma cuillère.
Et les boudoirs de pizza.
Exactement.
Donc, est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail justement sur ce travail autour de la nourriture et de la question aussi de la digestion et de l'exécration en fait.
J'apprends trop de mots à la fâche. L'exécration.
Super,
je vais faire un nouveau texte,
non,
ça
ne va
pas longtemps.
Vous faites vomir, quoi. Qui est quelque chose qui n'est pas. Que tu avais déjà travaillé avant plutôt vomir que faillir, quoi. Je veux dire, moi je me rappelle de. C'était avec de la Vallée Bidier Phono, la performance.
Dans Monstre.
Là où la chèvre est attachée au Fekelbourg, moi je l'avais vu au Carreau du Temple.
Tu veux dire la question de la nourriture ?
Ingérer une quantité impressionnante de nourriture aussi concrètement au plateau. Je veux dire, c'est pas juste un motif. C'est ça. C'est pas juste un motif. C'est aussi très concret. Donc voilà. Est-ce que tu peux évoquer un peu plus, développer un peu plus ce rapport aux aliments, à la nourriture et...
Eh bien, j'essaie du coup de remonter. J'essaie toujours de raconter des trucs un peu différemment pour pas m'ennuyer moi-même. En fait, je crois qu'il y a une première porte ouverte qui s'ouvre avec Rodrigo Garcia. J'en parle là comme s'il était dans le territoire pendant un temps. Dans le sens où, quand je vois Jardinage humain, quand je suis en première année de fac, je pense, Jardinaria humana, Il met sur le plateau des accessoires et il utilise des produits de nourriture et de consommation de la vie de tous les jours. Et je me dis, ah bon, c'est possible de faire venir une bouteille de coca dans un théâtre, sur scène, et de le rendre sacré. D'en faire quelque chose qui évoque de la poétique. Moi, je pense pas qu'une bouteille de coca pourrait m'évoquer quelque chose d'autre que un soda, quoi. Et d'un seul coup, il le pose là, il le transforme en signe et je vois, voilà. Je vois l'impact que ça me fait. Je comprends les signes derrière. Ça me met en perspective des choses. Et quand en 2010, il y a ce stage qui est proposé de performeur de la scène, se débarrasser des metteurs en scène. Donc ce stage de Rodrigo, et que je suis sélectionnée avec un travail où j'essaye de d'écrire des personnages, enfin en tout cas des traversées qui sont la femme peau, la femme langue et la femme estomac. Et du coup, c'est des personnages que j'imagine comme ça. Et donc, le principe de ce stage, c'est qu'on était 10 projets, donc 14 artistes, dans une école d'art fermée à Caen pendant le mois de juillet, qu'on avait 3 semaines, chacun notre salle. On avait une somme d'argent, on avait le vidéaste de Garcia et une technicienne, une régisseuse. Voilà. Et en fait, pendant 3 semaines, on commençait, on faisait chacune nos projets. Et en fait, Rodrigo passait, nous donnait des coups de main, et surtout, on venait se voir mutuellement les uns les unes les autres. Et en fait, ce qui venait, c'était de me poser des défis, en me disant, ok, je vais faire une rencontre entre la femme, entre les trois femmes en fait, entre la femme peau, la femme langue et la femme estomac. Donc, je choisissais un aliment. Avec cet aliment, je posais un masque, parce que je faisais beaucoup de body painting et de face painting, d'auto-maquillage en tout cas, grâce encore à une technique des CMA, quoi. Et donc je me disais par exemple, ok, mon premier défi d'ailleurs, posé à ce stage, était, ok, et j'étais venue avec tous mes livres de cuisine et tous mes livres de régime d'un camp, là, je sais pas. Voilà, j'étais venue avec plein de trucs comme ça, j'étais venue avec toutes mes photos de maquillage, je m'étais fait un mur comme ça, et puis je m'étais dit, ok, on va choisir la viande, comme c'est le principal truc, voilà, où j'ai l'impression que c'est moi, je vais aller chercher 500 grammes de viande crue, et puis je vais créer un masque de ce que serait une femme viande. Et donc je crée ce masque-là, voilà, en trompe-l'œil, avec des yeux énormes, globuleux, et puis la bouche en sang, c'était pas hyper original. Et puis après, la troisième étape, c'est la femme langue, et donc c'était écrire. Et donc ça a été un truc qui est resté beaucoup, c'était j'ingère quelque chose, cela m'impacte, on le voit à l'extérieur sur ma peau, et puis la langue dit quelque chose. Quoi. Et j'écrivais voilà, en live quand les gens rentraient dans la salle et venaient me voir manger cette viande crue. Et puis après, Rodrigo m'a un peu dit, tiens, peut-être ton maquillage, au lieu de le faire avant qu'on arrive, alors qu'il n'est pas parfait, parce que tu es quand même, t'es bordélique, tu fais vite les choses, peut-être tu devrais faire les choses et nous montrer le process de ça, le même processus que c'est de manger. Tu pourrais le déplier aussi dans le fait de nous montrer ce qui n'est pas censé être vu, de nous montrer cette obscène-là. Le maquillage, normalement, on le fait avant d'arriver sur scène, on s'habille avant d'arriver sur scène, enfin, on met son costume avant. Et voilà, du coup, l'idée, c'est de que les gens assistent au processus de transformation et éprouvent ce qui se passe. Donc, je mange et quelque chose se transforme et une langue peut sortir, enfin, le verbe peut arriver. Donc, bon, voilà, ça c'était pour la grande histoire. En gros, je suis juste après, sinon, obsédée par la nourriture. C'est tout, quoi. Je sais pas si je suis boulimique, je pense que je suis plutôt, comment on dit, compulsion alimentaire. Donc, du coup, c'est vrai que je suis contente, j'ai faim, je suis pas contente, j'ai faim, je suis en colère, j'ai faim, enfin voilà. Je bave devant les boucheries plutôt que devant les boulangeries. J'ai ce rapport où je me dis souvent que j'aimerais arrêter pour devenir bouchère. Voilà, ça c'est pour les trucs, pour me fâcher avec tous les végés de la salle. Voilà, donc j'ai ce rapport-là très fort à mettre les mains dans la matière, à cuisiner, transformer en fait la nourriture, et je suis assez fascinée par les couleurs, les matières, les possibles, et au fur et à mesure à quel point cette matière-là de nourriture peut questionner bah, classe, genre, race, sexualité, religion, etc. Et que d'un seul coup, ben, c'est c'est génial pour moi. Il y a une grande richesse en tout cas, et ça me permet de questionner moi mon rapport au monde et de le poser à tout le monde. Et très vite, je me suis aperçu en effet que j'ai tout construit. Enfin, c'est très rigolo de parler maintenant 10 ans après, parce que en vrai, quand j'ai fait les choses, j'ai fait les choses. J'ai pas disserté dessus. Je me suis rendu compte que, mais ne serait-ce que parce que je pense j'étais j'ai grandi dans une famille martiniquaise et que ma mère nous cuisine de la queue de veau. Hier soir, j'ai cuisiné de la queue de bœuf jusqu'à 4h du matin. Voilà, que je mange des abats, qu'on mange de la viande à tous les repas, que c'est important, que c'est un peu sacré. Bon, voilà, je me suis aperçu que j'avais un rapport déjà quand j'invitais mes copines à la maison et que ma mère disait, tiens, tu veux de la soupe de pied de veau? Et que les copines étaient là, genre, non. Copine blanche et tout. Je savais bien que j'avais un super pouvoir de décalage par rapport à la nourriture déjà, ou que j'avais une connaissance de d'autres ingrédients, enfin bon, comme toutes les personnes qui ont des origines différentes de la norme, je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est la norme, mais en tout cas, on a tous des trucs, des langues, des machins. Et donc là, je me disais, ah oui, j'ai un petit super pouvoir, et puis je suis pas, comme je suis bordélique et que j'ai grandi dans une famille plutôt syndrome de Diogène, donc avec des trucs partout, bon bah, je sais pas, moi... Il y a plein de rapports à la matière, ça me dérange pas de vider ma d'aura, je suis pas sensible, j'aime bien voir la tête. Bon voilà, donc tous ces petits pouvoirs, je sentais bien que ça créait quelque chose qui questionnait le comment on mange. Et donc c'est venu comme ça, tout doucement, en me disant bah oui, tu manges des sushis, mais en fait moi je peux prendre la d'aura directement et on y va, c'est pareil, non? C'est pas pareil? Ah ok. Voilà, et d'interroger aussi mais c'est pareil, c'est venu avec le temps. Dans ces spectacles-là, j'ai compris qu'on me percevait comme noir, et donc que moi, mon super pouvoir, où je me disais ouais, machin, d'un seul coup, il était aussi interprété comme peut-être un truc de sauvagerie, peut-être un truc d'animalité, peut-être un truc. Comment dire ça? Oui, un peu magique, parce que nanania, voilà. Donc j'étais obligée de prendre tout ça en compte. Ouais, des fantasmes, mais moi-même, je les avais aussi, je pense. Clairement, parce que la question du rituel, elle est venue aussi très vite dans tout ça. Et donc, dans la cuisine, une recette, c'est un rituel. Je vais pas. Enfin, ma mère, par exemple, elle cuisine, et en fait, le plat est sur la table, et tu sais jamais les étapes. Elle nous a pas transmis, par exemple, comment ça arrive. Donc, du coup, j'étais un peu genre fascinée par le cru et le. Enfin, le cru et la trans. Enfin, j'ai eu manqué le processus entre les deux. Donc, du coup, le fait de faire ça aussi, c'était une manière d'inventer. Les non-dits, d'inventer les trucs qu'on nous raconte pas, d'inventer voilà les étapes de recettes de la vie.
On a le temps, mais on se dit toi, vif le moment présent. Ma psy et maman me le disent, mais je vis dans la crainte que tout se fane, dans l'espoir que tout s'éternise. Je dois vivre le moment présent. Ma psy et maman me le disent, mais je vis dans la crainte que tout se fane, dans l'espoir que tout s'éternise. Mais quand même, imagine un jour on disparaît. Imagine si demain je perds mon bébé. Ma nièce a tellement grandi, j'ai l'impression qu'elle peut déjà sortir en boîte. Quand j'étais petite, je voyais les gens de 16 ans et je croyais qu'ils étaient tellement matures. Je me rappelle pour moi les lycéens, ils étaient super âgés. Je me faisais peur quand je passais à côté, puis maintenant, ça n'a pas changé. Je suis partie de la maison dans laquelle j'ai grandi, je vis dans un appart, c'est quoi cette connerie? La dernière fois, m'a vous voyez, non mais j'aime bien cette marque de respect, mais quand même, est-ce que je suis déjà périmée? Alors souvent, je me dis qu'il faut regarder devant, mais j'ai si peur que tout s'arrête, mais j'ai si peur que c'est moi qui arrête. Je dois vivre le moment présent, ma psy et maman me le disent, mais je vis dans la crainte que tout se fane, dans l'espoir que tout s'éternise. Je dois vivre le moment présent, ma psy et maman me le disent, mais je vis dans la crainte que tout se fane, dans l'espoir que tout s'éternise. Putain, comme j'ai peur de clamser, puis maman s'il te plaît, reste pour l'éternité. J'ai besoin que tu me fasses chier, mec, tes mains sur mon plexus solaire puissent me calmer. Au fond, je sais que t'es la maman, je sais, tu m'as dit, tu me répètes tout le temps, je sais que t'es la maman. Je dois vivre le moment présent, ma psy et maman me le disent, mais je vis dans la crainte que tout se fane, dans l'espoir que tout s'éternise. Je dois vivre le moment présent.
Bonjour. Merci. Moi, c'était une question par rapport au plateau et comment vous réalisez vos conceptions de décor, comment votre processus fonctionne, etc. Enfin, moi, c'est cette partie qui m'intéresse aussi.
Ouais. Mal. Je le fais mal. Je sais, par rapport à mon équipe, à l'équipe avec qui je travaille, au son, en lumière, au plateau et... J'ai pas encore compris comment il fallait travailler pour que je sois à l'aise et bien. Donc, je sais pas ce que ça va donner comme spectacle quand je serai à l'aise et bien. Peut-être que ça va être bien nul du coup. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, en tout cas, je parle des premiers travaux. Je circule dans les castos et dans les monopes à la recherche d'un seul coup de cette matière ou de ce contenant ou de cette organisation du monde liée à la nourriture et je m'en inspire ou je me marre dans l'estomac, dans la peau. C'était une scéno à base d'une table, une chaise et plein de sacs poubelles de toutes les couleurs, surtout des couleurs qui n'étaient pas les couleurs du sac poubelle. Et toute une scéno de une douche de sac. Il y avait une installation plastique qui était plein de sacs blancs pour le coup, remplis de lait. Et puis, encore une autre suspension de sacs bien noirs, mais plutôt les sacs... quand tu vas... Je sais pas, j'étais beaucoup Burkina à l'époque, et donc des sachets noirs. Quoi. Et donc, je m'étais fait toute une scéno de sacs, mais parce que j'avais pas de thunes, et j'étais... Voilà. Mais je l'ai fait comme ça dans les magasins. Et après, j'ai voulu garder ça, mais c'est vrai qu'on m'a dit « Meuf, tu joues en scène nationale, maintenant, faut que t'arrêtes d'aller jouer tes spectacles avec des sacs tati. Là, on attend de toi que t'aies une cantine bien rangée, où il y a écrit « décor », et on espère que tu aies un décor à monter, et pas juste que toi, tu sois là en train de faire « nan, nan, nan ». Mais en fait, je l'ai plus proche d'un rapport, je pense, plastique, fin d'art plastique, enfin, je sais pas comment on dit, de plasticienne, pardon. Parce que j'étais là, je voulais toucher, comprendre, connaître, parce que, en fait... Comme c'est moi qui allais les pratiquer au plateau en étant performeuse, il fallait que je puisse bien comprendre comment... Enfin voilà, rien de fou en fait, c'était plus proche de la performance et d'être plasticienne de mon propre espace de jeu. Et après on m'a fait comprendre que si je voulais mériter ma place, ou en tout cas aller vers l'institution, il fallait que j'aie les codes et que j'aie un ou une scénographe. Ça a été compliqué. En fait, il y a plein de choses qui ont été compliquées comme ça, parce qu'en fait j'ai dû... au lieu d'être que sur moi et mon instinct et mes petites idées machin, j'ai dû communiquer à une équipe et Dieu sait que c'est pas facile de communiquer ce qu'on sait pas, et ce qu'on sait pas parce que voilà, on sait mais on sait pas. Je travaille beaucoup avec Céline Champineau qui est programmée ici, avec qui il y aura une rencontre à 18h
au Méli-Mélo, en bas de la rue de l'université,
voilà, à 18h30 pardon, avec Céline Champineau et Marion Aubert. Mais Céline Champineau, c'est une partenaire de longue date, et elle pour le coup, elle a enfin, elle me, bon, je vais pas raconter toute notre life, mais donc elle est collaboratrice artistique, dramaturge et même directrice d'acteur. Enfin, elle m'aide beaucoup à structurer les choses et elle dit souvent, bon, Rebecca, là, plus je te pose de questions, moins ça va et tout, mais en fait, rappelle-toi que le spectacle, il est dans toi et que c'est comme si c'était la statue est là et il y a le rocher autour. Et moi, je vais, on va t'aider à retrouver la statue dans la pierre, quoi. Mais rappelle-toi que le spectacle, il est là. Tu l'as parce que t'as commencé le truc et souvent, c'est ça le travail, c'est que mon équipe, elle est souvent là pour m'aider à sortir ce qui est déjà, ce qu'on sait déjà d'une certaine manière. Mais souvent, quand on me pose la question, c'est très dur. Et donc, sur le travail scénographique autour de Carte Noire et de Plutôt Vomir, justement des spectacles où vraiment là, j'étais obligée de penser scénographie, quel plateau, assez vite on te demande c'est quelle taille, c'est quel camion, parce qu'en fait c'est un jeune public, faut pas que ce soit trop lourd, mais quand même c'est trop tard, il est trop lourd, donc du coup on fait quoi avec cette info? Ouais, l'assiette fait 170 kilos alors qu'elle devait en faire 70, enfin il y a plein d'accidents quoi. À la base on voulait que tout le sol de Carte Noire puisse mousser. Voilà. Donc il y a un bassin sous le sol de Carte Noire et du coup par exemple on avait décidé que les points d'évacuation sur le plateau, donc il y a plein de trous sur le plateau, ce serait une carte noire, une carte panafricaine de toutes les présences noires, les îles et les pays, les états où il y avait majoritairement une présence noire. Mais en fait on le voit pas. On le voit pas quand on voit pas cette magnifique carte noire. Et surtout, en fait, ce truc moussant sur lequel on a tripé, ben en fait, finalement, c'est 400 litres d'eau par soir qu'il faudrait changer tous les jours, donc non. Mais c'est trop tard, les trous sont faits, le bassin existe. Voilà, je me suis retrouvée dans cette situation où je n'arrive pas encore, comme je suis éloignée du contact avec le... C'est plus moi qui fais les trucs. Bah, du coup, les choses sont très grosses. Elles m'échappent un peu. Et après, je me retrouve avec ça comme une contrainte de jeu. Donc, du coup, je sais pas encore travailler avec ma scéno, encore complètement, je trouve. Ni avec mes lumières, ni avec mon son. On s'arrange, mais par exemple, Suzanne et Elisa, qui ont fait le son et la lumière sur Plutôt Vomir, elles ont pu travailler 5 jours avant. Les comédiens, les comédiennes, ils ont eu les textes 5 jours avant. L'assiette est arrivée 5 jours avant. 5 jours avant, j'étais en PLS, en gros.
Mais du coup, dans Plutôt Vomir que Fire, enfin, tu parles de cette assiette qui est très grande. Et donc là, au-delà bon, des contraintes techniques, pourquoi est-ce que voilà, tu travailles aussi sur cette question des échelles, en fait, et d'être là sur une assiette qui est très grande, des couverts qui sont très grands, donc, alors même que voilà, on sait que dans ton travail, la question de l'excès aussi est quelque chose de très présent. L'excès aussi dans des situations qui dégénèrent quelque part, qui dérapent, etc. Donc voilà, par exemple aussi, on ne va pas trop spoiler Carte Noire, mais dans Carte Noire, tout le rapport au tressage aussi, il est là, mais tout d'un coup, il prend une dimension qu'on ne peut pas deviner au début du spectacle, quand c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, est-ce que tu peux revenir aussi sur cette dimension liée comme ça à la grandeur des choses voilà, qui te met en difficulté, alors a priori, puisque après les camions sont trop petits et
personne n'a de réponse sur sa vie, sur ce qu'on va devenir, tout ça machin. Donc moi je pense que depuis petite je me fais des imaginaires de ce que je suis et donc je trouve des justifications. Alors, je pense que j'ai lu 10% de ce livre-là qu'on étudiait au lycée, quand j'étais au lycée, quoi. Nadia, d'André Breton. Bon, j'ai rien compris, j'ai rien machin, mais j'ai retenu cette info de... le personnage voit des signes partout qu'il décide que, voilà, si le métro passe... Enfin, il n'y a peut-être pas le métro dans Nadia, mais bon. En gros, il se dit, bon, j'ai une question, là, est-ce que je dois faire un enfant ou pas? Et puis, il y a un panneau avec marqué « oui !» Et puis, du coup, il dit « ok, j'y vais ». Enfin, mais moi, c'est ce que j'ai compris de l'œuvre. Et donc, du coup, moi, je me raconte... Hein, c'est... Putain, pauvre prof de français qui va se tuer. Mais... j'en ai gardé ça et je me suis dit, ah super, il y a plein de réponses que j'ai pas. Ma famille n'est pas dans le genre à expliciter les choses, ni à compléter, ni à proposer des accompagnements à la réflexion. Donc il faut que je me démerde en inventant des trucs. Donc une des mythologies, quand même, enfin une des histoires que ma mère m'a transmis beaucoup, c'est l'astrologie par exemple. Et donc depuis toute petite, je sais que je suis scorpion et que je suis intense. Voilà. Je sais que je vais, après c'est voyance et astrologie mélangée, je sais que je vais partir et parler plein de langues. Bon, voilà, donc il y a tout un programme qui m'était un peu quand même, si, il y avait une forme de structure. Et du coup, du scorpion, l'intensité, les extrêmes, l'occulte, les problèmes avec ma sexualité.
Ça pique.
Ça, c'est pas vrai, du coup.
Ça pique.
Voilà, seul animal qui peut se suicider, donc du coup, voilà. Et donc, il y a cette chose-là, un peu, que je m'amuse à faire, c'est-à-dire, il faut que je... Enfin, puis en plus, je suis dans une famille où le rapport, pour exister, il faut, je pense, choquer, où il faut provoquer des choses, des réactions, en fait. On essaie de faire un peu comme... On dégage pour que peut-être le père réagisse, peut-être quelqu'un se mette à faire un truc dans cette famille. Oh là, c'est horrible, mais qu'est-ce que j'ai avec ma famille ce matin? Je les aime tous très fort, on s'entend vachement bien. Presque. Mais pardon, je sais pas, je vais retourner voir mon psy. En tout cas, il faut. Mais comme plein d'ados, comme plein de choses, il faut faire peur pour qu'on nous rassure et tout. Et ma mère était très petite détective, journaux genre Courrier Picard, elle brûle son enfant après l'avoir mangé, enfin voilà. Donc pour l'impressionner, pour être là, entre faire face aux discours, enfin aux informations les plus glauques et à de toute façon, comment il s'appelle ton copain Gémeaux là, enfin voilà, à tout ce truc où vraiment on va aller, enfin voilà, c'est deux langages que j'avais et donc je pense que il y a un truc pour moi qui est d'aimer pour avoir des réactions, faire peur, secouer, prendre des risques, ouais, être dans un excès. J'ai très vite eu, enfin, je sais pas, je trouve des photos de cinquième, les cheveux rouges, puis les cheveux roses fluo, puis avec des pantalons à velours, avec des tas de trucs compensés, voilà. Donc, c'est-à-dire que j'étais, par mon environnement picard, là, d'école, j'étais déjà ostracisée, mais du coup, j'ai fabriqué une couche en plus, quoi. En disant, ah, c'est parce que je suis noire ou parce que je suis je sais pas quoi d'ailleurs, que j'ai pas de potes ou que j'ai pas de personne veut sortir avec moi. Bon, ben, on va rajouter une petite couche et comme ça, au moins, on saura pourquoi. Et voilà. Donc, je pense que j'ai toujours eu un moyen de défense et de protection, ce truc de pousser le curseur un peu. Et puis, puis là, ça me fait rire. En plutôt vomir, encore une nouvelle explication psychanalytique que je n'ai jamais donnée. Je me dis, bon, je disparais. Bon, déjà, d'une, la scénographie, c'est-à-dire que j'ai fait 2 semaines de résidence et à la fin des 2 semaines, il fallait que je dise la scéno. Franchement, hyper difficile. C'est une création qui s'est faite 6 semaines en 6 mois, là où Carte Noire c'est 4 ans, là où La Chef c'est 3 ans, voilà. Là, d'un seul coup, en termes de temps de digestion, pour le coup, de l'information et du sujet, ou même d'avoir le temps de m'imprégner, il n'y en a pas eu quasiment. Donc après 10 jours à rencontrer l'équipe en Suisse, que je rencontre en plus, équipe nouvelle, avec nouveaux défis, défi de parler à un jeune public, défi de disparaître du plateau, défi d'avoir des mecs 6 sur scène, c'est beaucoup de défis. Et d'un seul coup, il faut que je sorte la scéno 10 jours après ça, quoi, après avoir rencontré tout le monde. Donc, du coup, j'ai affirmé des fantasmes. J'ai dit, ok, je vais enfin avoir ma fourchette et mon couteau géant. Maintenant que j'ai le budget, je peux avoir ce truc dont je rêve depuis 5 spectacles. Donc, ça, c'était une contrainte qui est venue. Enfin, c'était un truc qui est venu presque avant d'être sûr que. Enfin, j'avais quand même déjà le vomir. Et après, on s'est amusé à chercher le titre Mieux vomir que partir à point. Non, c'est des blagues. On cherchait, puis après, plutôt vomir que faillir. Titre que je ne comprends pas encore moi-même. Complètement, en tout cas, ça reste une énigme que j'aime bien creuser. Et du coup, gigantisme. Gigantisme, parce que aussi, je sais pas, j'avais besoin d'être présente d'une certaine manière au plateau sans l'être. Donc, pas un micro-ondes, mais un meilleur de micro-ondes. Pas une assiette, mais enfin, the assiette. Et puis, pourquoi pas faire venir, bien sûr, faire venir une cantine sur un plateau. Enfin, un self entier, quoi. Donc chaque élément pèse 140, 120 et 170 kilos, moi je fais 120 kilos, donc je trouve que c'était assez... c'est vraiment ça, c'est 120, 130 les... 130 le rail, 140 le truc et 170, du coup j'ai l'impression que... qu'il y a une grande cohérence, une grosse cohérence. Quoi.
Tu as dit, il faut aller chercher des preuves pour que les gens nous croient. Et après, tu as dit aussi « sacré » 2 fois. Et après, tu as dit un truc du genre « au cul » à un moment. Enfin, quelle est la part de croyance quand on va dans des endroits qui peuvent être violents ou dans la performance, un peu comme toi tu le fais? Il faut croire à quoi, en fait?
Ok. Bien joué. Faut croire à quoi? J'ai l'impression qu'il faut croire fort en l'humain et en l'humaine. Parce qu'il faut croire que... que les personnes qui sont avec toi vont percevoir, capter, communier pendant que tu fais tes actions, pendant que tu donnes tes tripes, quoi. Donc j'ai l'impression que ça, ça demande une foi profonde dans le faire, dans l'action. En fait, c'est ça beaucoup que je montre. Souvent, je laisse les gens regarder quand j'agis ou quand on fait quelque chose au plateau. Et ils sont obligés de regarder l'action et de croire qu'il va y avoir une suite et croire qu'ils vont comprendre quelque chose, croire que... Voilà, et je crois fort en l'action. Voilà, ça c'est un truc... mais pas forcément là... En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'assez... j'ai un tatouage avec marqué flemme, là. Et je suis assez dans la procrastination, certainement par perfectionnisme, bien sûr. Et mais en tout cas, j'ai une tendance comme plein de gens, à la paralysie devant la violence du monde. Et je suis très bonne, très douée pour, je pense, m'auto-endormir devant un écran, voler la face, voilà. Donc, si je peux me mettre, si je peux essayer de dire, allez, venez, on croit à l'action. On croit que si on fait des choses un peu, quelque chose va bouger en l'être, dans les êtres qui nous regardent ou qui nous entourent. Voilà. Je crois fort au collectif. Enfin, non, alors attendez. Je crois fort au groupe, l'équipe. Enfin, je crois fort à toutes ces formes-là ou de pratiques, voilà. J'ai bugué parce que collectif, je sais que je suis mauvaise sur le collectif, j'assume assez bien d'être dans un rapport hiérarchique, je ne sais pas faire très bien le point de vue égalitaire et horizontal, mais j'en parle, enfin je le dis, voilà, je crois que je suis pas capable de, donc on va essayer de faire avec ce rapport là de la manière la plus douce possible, la manière la plus dans la communication possible, voilà. Mais je crois fort en ça. En tout cas, ça m'a vraiment donné beaucoup de force à partir du moment où on était plus sur le plateau. Où d'un seul coup, j'ai retrouvé aussi mes premières intuitions dans mon premier spectacle, c'est 8 femmes. Et on est 16 femmes sur scène, 8 comédiennes et 8 instrumentistes. Et donc, déjà, j'avais envie qu'on soit en masse et que, à la base, c'était que des meufs cis blanches. Mais je me sentais bien quand même à cette époque-là. En tout cas, je me sentais que j'avais dit non, il n'y aura pas de mecs sur scène. Et c'était en 2600. Et je me disais, waouh, je me sens chargée de dire. Voilà. Donc, et après, ça s'est décliné. Et puis aujourd'hui, plutôt venir, c'est un autre type de collectif, enfin de groupe, pardon. Mais plus, justement, on est plus en mode familial. Donc, j'ai aussi compris que la famille pouvait être un groupe, une équipe. Et que, voilà. Donc, je crois fort à ça. Après, je suis croyante tout court. Enfin, je suis croyante, je suis genre base catholique, option, je fais ce que je veux. Avec, bien sûr, j'ai bien compris qu'il fallait que je pouvais pas vraiment m'épargner de questionner l'institution religieuse et les violences qui se créent à partir de la religion. Mais j'ai grandi comme ça et j'ai choisi que ce soit une mythologie, intime, qui perdure. Donc oui, je parle à Dieu, Dieu me parle, tout ça. Enfin, Dieu. Voilà, si je me suis permis cela, je me suis dit, bon, tu m'en veux pas, vas-y, allez, je te rajoute un petit et on va se dire que t'es une femme noire et tout ça, c'est ok. Voilà.
Dans tes spectacles, il y a vraiment ce processus, en fait, qui nous amène vers le sacré. C'est particulièrement vrai dans Carte Noire, Nommé Désir, qu'on va pas spoiler la fin, justement, mais vous verrez, pour celles et ceux qui l'ont pas encore vu, qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, en fait, il y a cette dialectique qui nous amène vers une image finale qui est absolument incroyable. Voilà. Donc, je lis la fin de ce texte, et puis ensuite, on fera une pause. Et, merci encore, Rebecca, pour ta présence et ta générosité. En revenir de la France, changer la temporalité, créer au ralenti et en silence, ne plus appeler ça art, mais pourquoi pas rat? Faire perdre le fil de celui qui regarde mon rat. Casser la langue, enlever les mots, ne plus vouloir faire rire à tout prix. Parler de croyance, réinjecter du sacré. Fabriquer du moche, se débarrasser des yeux extérieurs. Faire chauffer et vérifier de la pointe de mon couteau si le rat français a peur. La désoccidentalisation est en cours. Merci beaucoup, Rebecca. We'll be right back.
C'est un bon seul, moi le mot.